Chapitre 13e. Le lendemain après-midi, je retournais chez Mademoiselle de Boisboissel. Depuis que j'avais pris cette grande décision, je me sentais complètement changé. La veille encore, j'avais tremblé d'aller rue Maurepas. Au moment d'entrer, j'avais causé à mon père une grande peur en lui disant que je voyais des gens surveiller la maison. Mon père, qui n'était pas encore habitué à mes frayeurs continuelles, s'était arrêté brusquement. Il m'avait pris le bras. Il m'avait entraîné dans une rue transversale, puis dans une autre. Quand nous eûmes parcouru ainsi plusieurs centaines de mètres, je lui dis, un peu gêné de l'avoir vu prendre tellement au sérieux une de ses remarques que depuis plusieurs mois je faisais machinalement, que je m'étais sans doute trompé. Il me répondit « Oh, certainement pas ». Il m'obligea à me cacher dans une encoignure, puis il retourna seul rue Maurepas. Quand il revint, il me dit qu'en effet je m'étais trompé. Je le savais bien, mais ce qui me surprit, c'est qu'à aucun moment il ne me fit remarquer que j'étais devenu bien craintif, persuadé qu'il était que s'il y avait quelqu'un qui ne prendrait jamais trop de précautions, c'était bien moi. Jean de Boisboissel me reçut dans le salon de la veille. Je lui fis part tout de suite de ma décision. Il me demanda où je travaillais. Je lui dis que je ne travaillais pas. Il me posa d'autres questions. Je sentais que chaque fois mes réponses le décevaient. À la fin, il me dit qu'il ne voyait pas très bien ce que je pouvais faire. Je fus surpris. Je lui demandai pourquoi on ne pouvait pas utiliser ma bonne volonté. Il me répondit que la bonne volonté n'avait aucune importance, qu'il ne s'agissait pas de bonne volonté, mais des possibilités que chacun de nous peut avoir dans sa sphère, qu'un simple cheminot était 100 fois plus précieux que moi. On eût dit qu'il cherchait à me faire de la peine, à me blesser. J'étais complètement décontenancé. J'eus alors un mot malheureux, je le reconnais. « Mais que puis-je faire ? » m'écriai-je. Il me regarda avec étonnement. Je sentis que s'il restait un doute dans son esprit sur mon utilité, ce doute avait disparu. Il me répondit avec une apparente gentillesse qu'il n'était pas qualifié pour me répondre, que je savais mieux que lui ce que je devais faire. Désirant me rattraper, je lui rappelai que je voulais servir, être utile, que j'étais prêt à sacrifier ma vie, à accomplir les missions les plus périlleuses. Il lissa ses cheveux du bout des doigts, puis froidement il me dit qu'il n'aimait pas qu'on parlât de sacrifier sa vie. Il ne mettait pas en doute mon désir de bien faire, mais il ne fallait pas que j'oublie que celui-ci n'avait rien d'extraordinaire. Il était naturel. Tout le monde avait ce même désir. Bientôt, nous allions tous pouvoir agir. Pour le moment, il tenait à me le répéter. N'était utile à la patrie que ceux qui, par leur situation, par la place qu'ils occupaient, pouvaient nuire aux Allemands. Les autres devaient attendre. Il ne fallait pas qu'ils s'exposent inutilement. Je le quittai peu après. J'avais dû baisser dans son estime, car il ne garda pas ma main dans la sienne comme il l'avait fait la veille. Personne n'est plus prudent que les guerriers, que ceux dont on dit qu'ils sont des casse-coups, dès qu'il s'agit d'amour, d'amitié, d'intérêt. En sortant, j'allais me promener dans le parc, bien qu'il eût beaucoup d'Allemands. J'étais abattu. Je n'avais pas su tirer parti de tout ce que j'avais enduré et de tout ce que j'avais fait. Personne ne me croyait. Comme j'eusse été heureux à présent de posséder ces mêmes preuves de mon héroïsme que j'avais si soigneusement détruites. Peut-être que ce héros avait déjà eu affaire bien souvent à des hommes comme moi, et qu'il savait ce qu'on pouvait attendre d'eux. Il me semblait que je venais d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'est pourquoi il avait été si froid. J'avais voulu me rendre intéressant, me hausser jusqu'à lui. Quelques instants après, je chassais toutes ces pensées. Mon humble position me dégoûtait. « Quel chiquet !» murmurai-je. « Oui, il appartenait bien à cette catégorie d'hommes qui me fait horreur. Souvent, dans la vie, on a affaire à de tels hommes. Aucun contact humain n'est possible. Ce sont des gens, pensais-je, qui se prennent trop au sérieux. » Le soir, je racontai à mon père ce qui s'était passé. Je lui dis ce que je pensais de ce héros. Mon père trouva que ce dernier avait parlé d'une façon tout à fait raisonnable. Il ne comprit pas du tout ma colère. Je dis que cet homme avait une trop haute idée de lui-même. Mon père me répondit qu'il en avait le droit, que personne ne pouvait le lui reprocher après ce qu'il avait fait. J'avais fait quand même bonne impression puisque j'allais habiter à la suite de cette rencontre chez une amie de mademoiselle de Boisboissel, madame de Vauvillet. J'étais de plus en plus désemparé. Ce qui caractérisait ma chambre, c'était l'humidité. Aucun meuble n'était d'aplomb sur le parquet inégal. La literie, elle aussi, était dans un état lamentable. La soie bleu ciel du couvre-pied était usée, laissant paraître une sorte d'étoupe grise. Des feuillages frappaient les carreaux quand il ventait. Les premiers jours, j'avais sursauté chaque fois. Je m'en étais voulu de ressentir ainsi cette peur enfantine, comme si je n'avais pas assez de mon autre peur. À la longue, je m'étais pourtant habitué à cette petite maison Louis XVI, située en contrebas dans une rue isolée. Une chose désagréable était que madame de Vauvillet, quand elle me parlait, prononçait à chaque instant mon nom. Elle cherchait tout le temps à me connaître mieux. Elle me posait des questions sur ma famille, mes occupations, et pour montrer à ses amis qu'elle n'était pas retombée dans la même faute de l'année précédente, elle répétait tout ce que je disais, n'omettant rien, me mettant en pleine lumière, de façon qu'on ne pût me confondre avec mon prédécesseur. Celui-ci, contrôleur des contributions, avait été arrêté un matin chez madame de Vauvillet, à la suite de détournements portant sur des sommes considérables. La vieille dame avait juré de ne jamais plus louer sa chambre, mais, sur les prières réitérées de mon père, et ce pendant des mois, elle avait fini par m'accepter. Je dois dire que lorsque j'avais appris cette histoire, j'avais été très gêné. Je n'avais pu m'empêcher d'imaginer le drame affreux qu'eût été pour madame de Vauvillet une deuxième arrestation s'effectuant chez elle. La plupart des visiteurs n'étaient heureusement que des vieilles dames. Il venait cependant parfois un monsieur. Quand je prenais part aux conversations, j'étais toujours sur le qui-vive, car on s'entretenait souvent de gens que je ne connaissais pas, mais dont je devinais à certaines paroles qu'ils ne vivaient pas d'une façon aussi retirée que leur amie madame de Vauvillet. On en parlait comme de personnages haut placés, venant de prendre de graves décisions, s'apprêtant à prendre de nouvelles, et cela ne manquait jamais de m'inquiéter quand leur visite était annoncée. Madame de Vauvillet tenait beaucoup à ce que je fisse leur connaissance, ce que j'essayais chaque fois d'éviter, car outre que nous ne sympathisions jamais, j'avais l'impression qu'une fois que j'étais parti, ils posaient une foule de questions à mon sujet. J'avais toujours peur que ces messieurs, si comme il faut, ne voulussent épargner à madame de Vauvillet une seconde mésaventure et qu'ils ne s'offrissent bénévolement à prendre des renseignements sur moi, non pas que la vieille dame leur tînt particulièrement à cœur, mais à cause de cette manie des personnages haut placés d'offrir de rendre service. Je n'osais faire part à mon père de mes craintes. Il était bien décidé à faire tout ce qu'il pouvait pour moi, mais il aurait fallu que rien ne se passât jamais. Chaque nouveau danger que je lui signalais lui faisait perdre la tête. C'était tout juste alors s'il ne se croyait pas obligé de se cacher lui aussi. Du moins, il me le laissait croire, car je le soupçonnais bien un peu de jouer la comédie, de chercher à obtenir par ce moyen que je reste tranquille et que je me contente de ce que j'avais. Ce qui caractérisait les gens que je voyais en ce moment, c'était qu'ils parlaient sans cesse de vengeance et de ce qu'ils allaient faire en Allemagne. Ils parlaient tout le temps des Boches, et cela me faisait de la peine de voir leur impuissance. Tout ce qu'ils pouvaient faire pour montrer leur mépris, c'était des gestes que j'en étais sûr, les Allemands ne remarquaient même pas. Ils racontaient sans cesse des petites scènes auxquelles ils avaient assisté. Une femme ayant tourné le dos à un Oberleutnant, lui offrant une chaise, etc. Eux-mêmes prisaient des gestes de ce genre. Mais cela me faisait de la peine que des détails aussi inefficaces puissent accaparer à ce point leur esprit. Ils se raidissaient pour ne pas être des vaincus, et tout ce qu'ils faisaient et racontaient montrait qu'ils l'étaient bien plus qu'ils ne le croyaient. Ils étaient très gentils pour moi, parce que j'étais un évadé. Pourtant, je n'étais pas du tout certain que s'ils savaient ce que j'avais fait exactement, ils le fussent demeuré. Au bout de très peu de temps, je résolus de quitter Versailles sur un prétexte très simple, de façon à ne pas provoquer de nouvelles histoires. Je ne me sentais pas en sécurité, c'était tout, je ne précisais pas davantage. Chaque fois que je parlais de mes craintes, il se produisait ceci de curieux, que je me sentais un peu comme un déclassé, comme un malheureux qui demande de l'argent à quelqu'un qui lui en a déjà prêté et qui croyait que c'était fini. Quand mon père vit que je voulais retourner à Paris, il comprit que cette fois il ne pouvait faire autrement que de me poser des questions, que de s'intéresser à mon sort, que de chercher à savoir pourquoi. Je lui dis que Madame de Vauvillet était très gentille, mais qu'elle s'intéressait beaucoup trop à moi et qu'elle avait beaucoup trop d'amis. Mon père m'écouta attentivement avec un visage où les ennuis que je lui causais contrastaient avec l'air qu'il voulait se donner de paraître me comprendre. Je sentais qu'il souffrait terriblement, que chaque mot que je prononçais lui faisait un mal affreux. Il était déchiré entre le devoir de m'aider et la peur des histoires. « Si tu crois que tu seras plus en sûreté à Paris, dit-il, n'hésite pas. » Le lendemain, il vint me voir. Il était triste, vraiment triste. Je lui dis qu'il n'y avait rien de dramatique dans mon départ, que c'était une simple précaution. Mais il ne voulait plus me laisser partir. Il voulait me remettre des lettres. Je l'ai demandé un encrier à Madame de Vauvillet. Quand elle sut que mon père était là, elle laissa paraître une agitation extraordinaire. Elle apporta un sous-main en cuir, un encrier en cristal de bohème. Je vis mon père faire un grand effort pour être aimable.